Seigneur bénisse. Une salutation au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre bien-aimé Sauveur, qui vous bénisse richement. Ce soir, on est entre nous, juste quelque chose pour terminer la semaine. Allons prier. Bien-aimé Père Céleste, c'est ce privilège que nous avons de nous approcher du trône de miséricorde. Nous te le devons. Tu as rendu cela possible et nous t'en remercions. Que ton nom soit béni et nous t'en remercions de tout notre cœur. Là où nous ne pouvions pas nous trouver, nous pouvons y venir vraiment avec assurance. Et nous pouvons te soumettre nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, et ou même si nos cœurs éclatent de joie, te proclamer ta sainteté, ta louange, ta majesté. Que tu sois béni, que tu sois honoré comme il se doit. Ô Dieu, par des cœurs rachetés par le sang merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Dieu, que nous puissions ainsi passer ce moment ensemble selon ta promesse, toi qui as promis d'être au milieu de nous si nous nous assemblons à ton nom. Pour nos nombreux péchés, nous en avons honte, Seigneur. Nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Parle-nous ce soir, ô Dieu, et assiste-nous encore en toutes choses. Et pour nos bien-aimés qui sont dans l'inconfort, dans leur corps ou dans quelque inconfort que ce soit, viens leur en aide. Tu es celui qui rend les eaux amères buvables. Tu es ce qui les adoucit à nouveau. Puisses-tu adoucir l'amertume qui peut environner certains de tes enfants. Nous tous, nous nous associons pour te demander cela. Ô Dieu, et nous te demandons d'ouvrir ta parole pour nous. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Verset 11 à 14. Jusqu'au 15. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. Ce que nous pouvons poser comme question ce soir, qui est-ce qui se sent brebis du bon berger ce soir parmi nous? Nous allons voir, nous allons y répondre selon les définitions qu'il donne. Déjà, le mercenaire, c'est quelqu'un qui fait ce travail que pour être payé. Dès que quelque chose arrive qui l'intéresse et qui est de nature à l'éloigner des brebis, le mercenaire, il n'hésite pas. Il s'en va parce que son problème, ce n'était pas les brebis, Son problème, c'était son besoin à lui. Par contre, le bon berger, que ce soit un loup, que ce soit un attrait du monde ou quoi que ce soit, il n'abandonne jamais ses brebis. Et je crois que nous tous ici ce soir, nous aimerions bien être comptés parmi les brebis de ce bon berger. Nous n'en voulons pas d'autres. Hein? Nous voulons juste le bon berger, celui-là même qui donne sa vie pour ses brebis. Et nous intitulerons justement les brebis du bon berger. On va essayer de les reconnaître ce soir. Et ainsi, nous allons nous regarder dans un miroir si réellement nous remplissons les critères que le Seigneur lui-même donne pour savoir qui est sa brebis, qui ne l'est pas. Parce que si on demande à tous que tu es la brebis de qui, chacun dira, je suis brebis du Seigneur. Mais il ne suffit pas de le dire. Il y a les brebis du Seigneur ont des caractéristiques bien précises. Et ce qui est vrai, c'est que lui, il les connaît, et elles aussi, les brebis, le connaissent. Nous avions dit donc, nous avions trois critères. Moi, j'en ai vu trois, peut-être vous en verrez d'autres, je n'en sais rien. Mais pour ce soir, j'en ai vu trois. Nous allons prendre le premier. Versets 3 à 4. Peut prendre verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, quand le portier ouvre la grille, le berger entre, il adresse un mot au portier, les brebis entendent sa voix. Ah, le berger est là. Notre berger est là. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Amen. Et il les conduit dehors. C'est-à-dire que les brebis ne sortent pas d'elles-mêmes de la bergerie, c'est le berger qui les appelle, l'une après l'autre. Et chacune sort lorsque son nom est évoqué. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, parce que peut-être dans cette bergerie-là, il y a d'autres brebis qui ne sont pas des brebis de ce berger-là. Mais les brebis du berger, le berger va sortir rien que ses brebis à lui. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je connais un cantique qui dit, sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il est devant toi. Donc, le premier critère, c'est que les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Vous devez connaître la voix de votre berger. Quand Jésus vous parle et que si vous êtes à lui, un de ses rachetés, vous devez savoir que c'est Jésus. Vous savez, au-dedans de vous, il y a beaucoup de voix qui peuvent se manifester. N'est-ce pas? Il y a des voix qui vont se manifester. Il y a de ces voix qui vont retentir au-dedans de vous. Vous allez dire, ça, ce n'est pas le Seigneur. Tout ce que vous entendez, ce n'est pas nécessairement le berger. Mais quand le berger vous parle, vous le reconnaissez. Et quand il parle, les brebis entendent. Quand on regarde un exemple, cet exemple dans 1 Roi 19, Élie, le prophète, on va commencer au verset 9, quand il entre dans la caverne, pendant que Jézabel en veut à sa vie. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. S'il n'était pas serviteur de l'Éternel, il serait vite sorti, disant: Voici l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il t'amène à ça. Les murs peuvent trembler. S'ils tremblent, ne courons pas vite disant: Ça a été puissant aujourd'hui à l'Assemblée. Soyons d'abord sûrs que c'est bien l'Éternel. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ah, sûrement l'Éternel est là. Non, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Ouais. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: Que fais-tu ici, Élie? Et une conversation va s'engager. Le fait d'entendre la voix du Seigneur, la voix du berger, il y a une conséquence à cela. Quelle conséquence? La foi vient de ce qu'on entend. Quand vous êtes équipé pour entendre sa voix, c'est ainsi que Dieu va vous donner la foi. La foi en sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, c'est le problème que les Juifs avaient. Jésus pouvait leur parler, mais ils ne comprenaient pas. C'était un problème de foi. On peut revenir dans Jean 10. Il a fait plein de choses sous leurs yeux, connues dans tout le pays. Il a fait plein de miracles, mais il restait toujours un problème pour les Juifs. Au verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Vous voyez le problème? Jésus leur a dit, ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était le Seigneur qui parlait. Et pourtant, quand les huissiers sont allés le chercher pour l'amener au Sanhédrin, il a parlé, les huissiers sont restés admiratifs, ils sont rentrés et ils ont dit au Sanhédrin: Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parlait d'une manière différente. Il agissait différemment. Il enseignait d'une manière différente. C'est ce qui fait la différence. Une assemblée, il ne suffit pas qu'elle s'appelle assemblée. Il ne suffit pas qu'elle s'appelle assemblée chrétienne. Non, encore faut-il que la différence avec notre assemblée, c'est que s'il y a Dieu, c'est Dieu qui fait la différence. Si Dieu y est, et même vous et moi, entre nous, ce qui fait la différence entre deux chrétiens, enfin deux personnes qui se disent chrétiennes, c'est le Saint-Esprit. C'est la différence. Et ici, ceux-là, ils ne croyaient pas. Jésus dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est la cause pour laquelle ils ne croyaient pas. Ils sont destinés à croire uniquement ses brebis. Si vous avez la foi dans la parole de Dieu. Si vous avez la foi, c'est que c'est vrai. Vous avez reconnu que c'était la parole de Dieu. C'était la parole de Christ qui était donnée et vous l'avez reçue et vous avez été équipé pour l'entendre parce que les autres, le monde n'est pas équipé pour cela. Ils ne pouvaient pas croire parce qu'ils n'étaient pas de ces brebis. Quand Israël a entendu sa voix dans le désert, ils ont endurci leur cœur. Ils se sont révoltés et sont morts dans le désert. Pourquoi ? Incrédulité. Parce qu'ils ne croyaient pas. Hébreux 3. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Quand Jésus parle, beaucoup de gens peuvent entendre, mais ils entendent des choses qui ne sont pas celles que Jésus dit. Par exemple, quand il dit « Je suis le pain de vie ». Ouais. Dans Jean 6, il dit « Je suis le pain de vie ». Certains disent « Cette parole est dure ». Par contre, ceux qu'il a pris avec lui, ils savaient que ces paroles-là n'étaient pas une question de paroles dures, mais c'était des paroles de la vie éternelle. Elles pouvaient être dures, mais ce sont les paroles de la vie éternelle. Et il est le bon berger qui donne la vie éternelle. Sa voix n'est audible de manière correcte qu'à ses brebis. Vous savez, même au fin fond du séjour des morts, quand il a crié au cimetière devant la tombe de Lazare, « Lazare, sors !» Je ne sais combien de Lazare étaient enterrés dans ce cimetière-là. Mais sa brebis Lazare a su qu'il s'agissait de lui. Les autres Lazare ont peut-être entendu. Et ils se sont dit, « Mais tu sais, c'est quelle voix ici qui nous demande de sortir ? » Alors qu'une fois qu'on est ici, on ne peut plus rentrer là-bas. Oui, mais Lazare savait que lui, il était différent. Et le Lazare a dû se lever, les autres l'ont regardé partir. Oh, le prophète, il est parti. Il les a quittés. Et ce sera pareil pour vous et moi. Vous savez, quand on visite un cimetière, on va dans un cimetière, soit même accompagner quelqu'un, ou lors d'un enterrement, on peut voir, il y a beaucoup d'homonymes dans les tombes. Vous pouvez voir 4 ou 5 Arthur, vous pouvez voir 2 ou 3 Marthe, vous pouvez voir et ainsi de suite, mais l'Arthur du Seigneur, quand le Seigneur va crier, les autres Arthur entendront peut-être, mais ne croiront pas, puisque déjà avant de partir, ils ne croyaient pas en la résurrection. Mais l'autre, il croyait qu'il ressusciterait un jour. Oui. Vous savez, Lazare, il croyait en la résurrection. Regardez seulement ce que sa sœur dit au Seigneur. Dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Elle savait ça. Et ce sont des choses que Jésus avait enseignées chez Lazare. Et les autres, Lazare, n'y ont pas cru. Mais celui-là, il y a cru. Il faut être équipé pour cela, pour entendre sa voix. Dans les âges de l'Église, il nous est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ça, c'est le premier critère. Vous entendez sa voix. Il y a même 2 critères dans ce critère. Vous savez, vous connaissez sa voix et vous l'entendez. Ce n'est donné qu'à ses brebis. Ce n'est pas fini. Maintenant, il y en a certains qui peuvent entendre, comme les 70, hein, n'est-ce pas? Ils ont entendu, ils étaient avec lui, mais à un moment donné, ils sont partis. Ils ont jugé que cette parole était dure. Dans Jean 27, nous passons au deuxième critère. Jean 10, verset 27, pardon. Jean 10, verset 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix. Vous avez entendu. Je les connais. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent. Elles suivent le Seigneur jusqu'à tout quitter. Et rien ne les arrête. » Ni la persécution, ni quoi que ce soit. Ça ne les arrête pas. Marc chapitre 10. Ni les moqueries. Ils le suivent quand même. Tu crois toujours? J'y crois toujours. Amen. Malgré ça et ça, ça et ça, j'y crois toujours. Sans contredit, c'est le Seigneur lui-même. Marc 10, verset 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et regardez la manière dont ils ont tout quitté. Jésus les rencontre, « Toi et toi, viens, suis-moi. » Et ils abandonnent leur filet et ils le suivent. Sans discussion. Ils ont reconnu que c'est lui. Abraham, lorsqu'on lui dit, « Va dans un pays que je te montrerai, là je te bénirai. » Abraham, Hébreux 11 vous dit, il s'est levé, il est parti. Sans se poser des questions. Pierre donc dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. N'oubliez jamais ça. Ce n'est jamais facile. Des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Mais il y a aussi une promesse. On va y arriver. Avec des persécutions, ce qui signifie que il y a une croix à porter. Pour le suivre, vous ne le suivez pas juste comme ça, comme vous voulez. Mais il y a une croix à porter. Dans Matthieu 10, il nous est dit ceci. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Maintenant, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il faut prendre votre croix. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Lorsque Dieu vous place dans votre territoire, chacun a ses montagnes, chacun a ses vallées. Dans la portion de chacun. Ne dites pas que la montagne du voisin, n'est-ce pas, est plus facile à grimper que la vôtre. Non. Dieu donne à chacun selon les mesures, les capacités qu'il a données. Si Dieu vous donne une montagne très abrupte, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de la grimper. S'il vous donne une montagne plus ou moins à planer, c'est parce qu'il sait, c'est selon vos moyens. Il ne vous demandera jamais quelque chose qui soit au-dessus de vos forces. C'est toujours selon la force qu'il a mise en vous. Et que chacun s'occupe de sa croix à lui. Ne vous occupez pas de la croix du voisin. Priez pour le voisin pour qu'il sorte vainqueur. Le voisin priera pour vous également. Mais n'enviez pas sa croix. Dites merci à Dieu pour la croix qu'il vous a donnée. Ça, vous pouvez supporter. Mais le voisin ne pourra peut-être pas supporter. Et inversement. Et il y a une promesse à cela. Dans Matthieu 19. En Matthieu 19. On revient un peu presque sur cela. Versets 27 et 28. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Amen. Vous, donc, premier critère, vous entendez sa voix, vous la reconnaissez. Deuxième, après l'avoir entendu, vous le suivez. Vous ne le laissez pas partir, vous le suivez. Comme vous le chantez si bien, la croix, elle est devant vous, mais vous ne pouvez plus reculer. Troisième critère, on revient dans Jean 10. Verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous le connaissez? Et comment est-ce que les brebis le connaissent? Par révélation divine. C'est le bon berger sont les bergers, sont les brebis, ils surveillent les brebis du Seigneur. Le bon berger, c'est le Seigneur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne confie pas cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Dieu s'occupe lui-même de ses brebis. Dans l'assemblée telle que nous sommes là ici ce soir, Frère François peut vous abandonner, que Dieu m'en garde, mais Christ ne vous abandonnera jamais. Oui. Personne ne peut se sentir indispensable. Le seul indispensable, c'est lui. Et il connaît vos besoins. Et il vous connaît par votre nom. Donc, par révélation divine, il demande, qui dites-vous que je suis? Beaucoup de gens l'ont entendu parler. Ils se sont dit ça, c'est peut-être Jérémie. C'est peut-être Élie, n'est-ce pas? Tous ceux qui l'ont entendu parler. Hein, et les disciples, ils ont entendu ce que les gens disaient de lui. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Pas vous d'abord, d'abord les hommes, les autres hommes, moi le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis ? Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Ils l'ont entendu parler, ils l'ont vu faire des miracles, ils se sont dit, « C'est certainement Jean-Baptiste. » Les autres disent qu'il est Élie. Les autres encore disent que c'est Jérémie. Ceux qui ne voulaient pas trop se mouiller disent l'un des prophètes. C'est vague ça. Dans la mesure où, quand Moïse fait la promesse du Christ qui devait venir, il dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc, si on dit l'un des prophètes, on est quasiment sûr de le mettre dedans. Non, mais lui n'est pas l'un des prophètes. Lui, il est le prophète. Ça, c'est comme quand on vient souvent vous dire, bah, mais il y en a ceux d'en face, j'ai beaucoup d'amis de ceux d'en face. Ils me disent, tu sais, c'est parce que vous l'appelez Jésus ou Dieu, nous l'appelons Allah. Moi, ils disent, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Les musulmans disent que c'est Allah. Les bouddhistes disent que c'est Bouddha. Les brahmanistes disent que c'est Brahman. Oui, mais vous, qui dites-vous qu'il est? Alors maintenant, il dit, ok, ça c'est ce que les brahmanistes, les musulmans et tout ce que vous disent. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous vous dites? Parce qu'ils vont vous dire, c'est toujours là, le même Dieu. Les catholiques vont vous dire, c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le privilège des brebis du Seigneur. » Dans Jean 10, justement, nous voyons le lien qu'il fait lorsque ces Juifs qui étaient là, leur cœur en suspens, jusqu'à quand nous tiendras-tu le cœur en suspens? Dis-nous franchement si tu es le Christ ou pas. Eh bien, Pierre le reconnaît directement, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que les Juifs ne pouvaient pas reconnaître, Pierre a reconnu. Et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc de révélation, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Toujours dans Jean 10, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, c'est en parlant de vous. C'est-à-dire que si les pierres l'ont suivi, l'ont reconnu par révélation divine, vous aussi ce soir, il est bon que vous le reconnaissiez par révélation divine. Vous avez reconnu comme ça, vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez dit, mais cette parole, elle est différente de ce que j'ai entendu jusqu'ici. Et vous faites comme Moïse, hein? Moïse qui voit quelque chose d'extraordinaire se passer, le buisson, le feu en plein buisson, mais le buisson ne se consumant pas, il approche. Alors, vous vous approchez aussi. Au départ, ça peut être la curiosité, ce n'est pas grave. Dieu peut toujours utiliser votre curiosité pour vous rencontrer. C'est une bonne curiosité. Hein, Moïse dit, il faut que je m'approche, que je voie ce phénomène étrange qui se passe. Dieu est dans l'étrange. Amen. Alors, quand il s'approche, c'est là qu'il entend la voix. Moïse. Ah, cette voix me connaît. Celui qui est dans ce feu-là, il me connaît. Moi, c'est la première fois que je vois ce feu, mais lui, il me connaît. Moïse. Moïse. Et je dis, mais voici. Ouais. Et c'est pareil pour vous et pour moi. Enlève d'abord tes chaussures. Ça, c'est l'humilité. Il se révèle aux humbles. Il leur montre la voie aux humbles, comme nous l'avons lu. Donc, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Le séjour des morts peut vous envoyer toutes sortes de tentations. Tant que vous êtes brebis du Seigneur, vous n'irez pas. Il y a un frère qui avait prêché ici il y a longtemps, Marc Hall, je crois qu'il s'appelait. Il disait qu'il avait fait cette expérience une fois en allant là-bas en Orient. Là-bas, il y a beaucoup de bergers, c'est un Américain. Il avait fait cette expérience. Il a vu un berger en train de faire paître ses brebis. Et le berger, il s'est approché du berger, il a dit au berger, « Appelle-les un peu près de toi. » Le berger les a appelés, ils sont venus, ils se sont approchés. Alors, lui, il est allé un peu plus loin, il a essayé de les appeler. Il les a appelés de la même manière que le berger a appelé. Je ne sais pas par quel cri il les appelait, mais il a fait un cri, les brebis sont venues, il a essayé le même cri. Les brebis n'ont pas bougé. Parce que les brebis connaissaient la voix de leur berger. C'est pourquoi un chrétien véritable, le monde va venir avec ses voix. Le monde va venir avec ses attraits. Là où tout le monde va courir, la brebis du Seigneur ne court pas. Elle ne court que lorsque le Seigneur l'appelle. Où vas-tu? Le Seigneur m'appelle. Il m'a dit de venir. On vous prendra pour un fou. Pierre dit, j'ai dû quitter mon papa, ma maman, ma femme, mes enfants. Ne le faites pas, hein, si Dieu ne vous le demande rien. Le Seigneur a dit à Pierre, viens et suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Si c'est le Seigneur qui vous demande de le faire, faites-le. Mais sinon, ne le faites pas. Mais suivez-le selon la conduite, parce que ce n'est pas l'Assemblée qui doit vous conduire. Dieu a promis un Saint-Esprit. La promesse est pour qui? Elle est pour tous. Elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Et ce qui intéresse la brebis, ce n'est pas tant soit la manière de chanter, Peut-être qu'ici, on chante faux. Vous pouvez aller dans une autre assemblée où on chante très bien. Ça peut... Mais ce n'est pas ça le critère, que là-bas on chante mieux qu'ici. Ce n'est pas ça le critère. Le critère est de voir si vous entendez la voix de Dieu ou pas. Et la voix de Dieu ne peut pas vous dire autre chose que sa parole. Ça doit toujours être en conformité avec sa parole. C'était le troisième critère. Quand il rencontre la Samaritaine, il dit à la Samaritaine ceci dans Jean 4. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine avait la possibilité de l'ignorer, parce qu'elle sait très bien qu'on s'approchait d'elle pour d'autres raisons. Tout comme elle avait la possibilité de lui répondre. Elle lui répond, la première chose qu'elle voit en lui, c'est un juif. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Tu ne vois pas que je suis une samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, le problème, c'est celui-ci. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est la première fois qu'on me parle comme ça. Jamais un homme ne m'a parlé comme ça. Du coup, elle ne voit plus. Un juif, elle voit quelqu'un qui dit d'abord, verset 11, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Maintenant, c'est quelqu'un de plus grand, pas seulement un juif ordinaire, mais plus grand que leur père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Donc, premièrement, un juif, deuxièmement, quelqu'un de plus grand que Jacob. Ce n'est pas fini. La révélation, elle est progressive. Savez, il y a plein de choses après Matthieu 16 que Pierre ne connaissait pas encore. Quand Jésus met le comble à son amour pour me laver les pieds, Pierre dit, jamais tu me laveras les pieds. Le Seigneur lui dit, tu sais, il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Au verset 18, verset 16, va, Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Le simple fait que le Seigneur lui parle, elle n'a pas tendance à mentir, ni à dissimuler quoi que ce soit. Quand Dieu vous parle, vous ne saurez pas mentir. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Cet homme juif, plus grand que Jacob, en plus, il en sait des choses. Du coup, ça devient plus grand que Jacob. Maintenant, il dit, Seigneur, verset 19, je vois que tu es prophète. Donc, juif, plus grand que Jacob, maintenant prophète. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est le genre de prédication qu'elle n'a jamais entendue. Jusque-là. Moi, ça me rappelle la première réunion à laquelle j'ai assisté. La parole de Dieu a été prêchée. J'avais entendu déjà beaucoup de lectures, épîtres de Saint Paul aux Romains. J'ai déjà entendu ça. Mais quand j'ai entendu cette prédication, c'était Frère Franck qui prêchait. J'ai dit, jamais je n'ai entendu ça comme ça. Et l'histoire qu'il avait racontée, l'histoire des deux prostituées qui se disputaient l'enfant, il avait raconté d'une autre manière. On me l'avait déjà raconté à la maison par mon frère. Mais c'était différent. Vous voyez? Et c'est vrai que les paroles, la bouche du sage, hein, c'est quelque chose. Et la femme lui dit, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas n'importe qui peut enseigner ça. Je sais, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Et pour elle, verset 29, la révélation est complète. Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Pendant que les Juifs disaient, c'est Belzébul, elle dit, c'est le Christ. Il est le berger de ceux qui entendent sa voix et qui le suivent et qui le connaissent. Et ces brebis ne suivront jamais un étranger, ni même un mercenaire. Maintenant, si vous êtes brebis du Seigneur, le psaume 23 est pour vous. Quand le psaume 23 étant pour vous, qu'est-ce qu'il dit le psaume 23? Parce que nous savons que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Le psaume 23, il dit ceci. Nous l'avons lu mercredi. On peut le relire ce soir et nous allons prier. N'est-ce pas? L'Éternel est mon berger. Conséquence, que l'Éternel soit mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il ne faut pas juste le chanter. Il faut réaliser, tant qu'il est votre berger, vous ne pouvez pas manquer de quoi que ce soit. S'il faut me reposer, il me fait reposer dans des verts pâturages. Si je suis s'il y a des eaux troubles un peu partout, comme aujourd'hui, dans le monde, il y a des troubles partout, parmi les peuples, il me dirige près des eaux paisibles. Là où il y a la paix. Il peut y avoir la guerre dehors, mais au milieu, parmi ses enfants, ils ont la paix. Les sirènes peuvent retentir, mais ses enfants sont en paix. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause, il ne le fait pas pour vous, il le fait à cause de son nom. Dieu ne veut pas que son nom soit blasphémé. C'est pourquoi nous avons cette responsabilité de de toujours faire de sorte qu'au travers de nous, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel soit loué, que le nom soit glorifié. Et quel nom est-ce qu'il nous a laissé sous le ciel? Il ne nous a pas laissé d'autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Je ne crains, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ne vous contentez pas d'une coupe à moitié remplie ou à moitié vide. Que votre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Brebis du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si vous le suivez, ne suivez pas un étranger, ne suivez pas un homme. N'allez pas dans une assemblée pour quelqu'un, pour un homme. Ne chantez pas pour un homme. Notre Dieu, notre berger, c'est lui qui mérite, qui est digne de toutes les louanges. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père céleste, les critères sont donnés et nous nous examinons si vraiment cette voie, nous la connaissons. Nous nous examinons si nous suivons ces directives telles que cette voie nous enseigne. Et la foi qui en découle, puisses-tu nous l'accorder, nous en avons besoin. Augmente-nous la foi selon ce que le frère priait tout à l'heure. Que nos malades, nos nécessiteux puissent rencontrer auprès de toi toutes ces bonnes choses que tu as mises en réserve. Ô Dieu, pour nous, la guérison, la délivrance, nous en avons besoin. C'est pour nous que tu as mis toutes ces choses en réserve. C'est pour nous que tu as voulu manifester tes attributs de médecin, tes attributs de sauveur, tes attributs, ô Père, de Père, tous ces glorieux attributs qui sont en toi, c'est à nous que tu voulais les manifester. Aussi, lorsque nous passons au travers de tempêtes, au travers de situations difficiles, oh, que cette voix qui apaise, alors que Élie était menacé par Jézabel, ce vent, ce murmure doux et léger venu pour le rassurer. Oh Père, rassure aussi tes enfants, parce que nous puissions marcher avec assurance. Oh, quand Satan veut nous troubler, que cette assurance ne nous quitte pas et que nous puissions la garder, cette assurance, jusqu'à la fin de nos jours. Depuis, tel que nous l'avions au commencement, que nous puissions encore garder cela jusqu'à la fin. Tu es celui qui pourvoit pour nous pour toutes choses. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions de nous avoir donné ces oreilles attentives pour pouvoir écouter comme écoutent les disciples. De nous avoir donné la force, de nous donner la force de porter notre croix. Nos yeux sont tournés vers toi. Nous nous attendons à toi. Merci pour cette soirée que tu nous as accordée ce soir, aujourd'hui. Si tu raccompagnes chacun d'entre nous et si tu tardes à venir, que nous puissions nous retrouver encore dimanche pour les rassemblements, que tu sois avec tes enfants qui répètent pour la chorale, que tu nous assistes, que tu nous raccompagnes alors que nous rentrons. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Vois dans les cœurs de tes enfants, selon leurs besoins, que tu les combles, Père, de tes bontés. Oh Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, te prions ainsi. Amen. Dieu vous bénisse.